Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de la mode unisexe, de Derek qui devient Rosalie à l'âge de 6 ans, des conservateurs fédéraux qui adoptent le mariage gay, de la fin du mariage au Québec, de la banalisation de l'euthanasie et bien sûr, mesdames et messieurs, des bonnes nouvelles du jour. Débutons par cet article qui s'intitule « Unisexe, votre mode ?» Et oui, le titre finit par un point d'interrogation et c'est publié sur la plateforme de la presse. Voici ce que nous dit ce journal. L'ère du temps est à l'unisexe. D'un côté, la notion de genre se fait de moins en moins binaire avec l'affirmation d'individus aux identités genrées diverses, qu'elles soient transgenres, transsexuelles ou intersexuées, alors que des pays comme la France et l'Australie ont reconnu pour la première fois en 2015 l'existence du sexe ou du genre neutre. De l'autre, la montée d'une mode à la fois minimaliste, décontractée et d'inspiration athlétique favorise l'apparition de vêtements unisexes conçus pour être portés autant par elle que par lui. Et oui, cet article nous apprend, mesdames et messieurs, qu'on retrouve cette mode au Japon. Évidemment, elle est portée par des gens d'Hollywood et on la retrouve également au Québec. Voici ce qu'on nous dit par rapport au Québec. Au Québec, Rad Ourani crée depuis des années déjà des collections unisexes qui ont défilé notamment à Paris et à New York. Qui a décidé que l'homme doit être en chemise et en cravate et que la femme doit se maquiller et porter des talons? Je n'essaie pas d'habiller l'homme en femme ou la femme en homme, mais de comprendre d'où viennent ces limitations. Pour moi, l'unisexe n'est pas seulement une façon de s'habiller, c'est une façon de s'exprimer, une façon d'être, avait déclaré le créateur en entrevue à la presse en 2013. Donc, ce qu'on offre, ce sont des t-shirts, qu'on appelle en français des gaminets, des chandails à manches longues, des blousons bombés, des pantalons de jogging et des jeans confortables aux coupes XXL et aux couleurs neutres comme le gris, le kaki, le marine ou le blanc. On retrouve également des chaussures unisexes et évidemment des vêtements au look sportif. Oui, mesdames et messieurs, on est rendu là. On veut déconstruire l'identité sexuelle. Et savez-vous quoi, justement? On veut pousser les limites qui ont été imposées par Dieu, puisque Dieu est le créateur du genre masculin et du genre féminin. On le voit dans la Genèse, Genèse 1, 27. Dieu a créé l'homme, il l'a créé homme et femme. L'article nous dit également un peu plus loin, on voulait vraiment proposer des vêtements unisexes, car selon nous, écoutez bien ça, mesdames et messieurs, la limite entre le vêtement masculin et le vêtement féminin est de plus en plus flou. Et ça, c'est Marie-Ève Proux, designer, qui exprime cela. Donc, on veut briser les barrières entre les hommes et les femmes. Que les hommes et les femmes apprennent à communiquer ensemble et briser, par exemple, des barrières de communication, des barrières qui amènent de l'incompréhension de l'autre sexe, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais savez-vous quoi, mesdames et messieurs? Là, c'est toute l'identité qui est en train d'être remise en question. Plutôt que d'essayer de comprendre l'univers des femmes et d'essayer de comprendre, par exemple, pourquoi un homme exprime plus de féminité ou se sent plus à l'aise dans le monde de la féminité ou vice-versa, pourquoi on n'essaie pas de les comprendre, de voir d'où ça vient et s'il y a une guérison à y avoir, travailler et œuvrer dans ce sens. Et ce n'est pas pour rien qu'à 6 ans, Derek deviendra Rosalie. Et ça, on l'apprend au travers de la plateforme du Journal de Montréal. Voici ce qu'on nous dit. Derek Audette crie haut et fort qu'il est une petite fille et non un garçon depuis qu'il parle. À 2 ans, quand les gens lui disaient qu'il était un petit garçon, il criait qu'il était une fille. Il était vraiment fâché. On trouvait ça drôle, on l'agaçait. On s'est rendu compte avec le temps que c'était sérieux, a dit Candy Tiberi, la mère de Derek. Selon elle, pour Derek, être une fille est une certitude sans équivoque qui se reflète dans sa façon d'être au quotidien. Le rose est ma couleur préférée, a lancé Derek, tout sourire en arborant fièrement son vernis fuchsia fraîchement étendu sur ses petits ongles. Moi, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que j'aime le rose. Je suis un homme et j'aime le rose. Mais je ne me considère pas une fille parce que j'aime le rose. Je trouve que c'est une belle couleur, c'est une couleur vivante. J'ai même des chemises qui sont roses. J'en ai plus d'une. Et même, il y a un pasteur qui m'a déjà vu entrer dans une église. Il me dit, il faut être courageux pour porter ça, Eric. Et je suis parti à rire. Vous savez, je trouve ça triste d'apprendre ça. Qu'à 6 ans, on prend la parole de cet enfant, puis on dit, OK, maintenant, tu vas t'habiller en fille, tu vas vivre comme une fille, on va te traiter comme une fille. Et même l'école lui donne le choix d'aller dans la salle de toilette qu'il désire. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cet enfant? Pourquoi il est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne cherche pas à comprendre et voir si c'est un garçon, s'il a un corps de garçon? Eh bien, pourquoi est-il attiré par le monde des filles et pourquoi se considère-t-il une fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble que la science devrait aller dans ce sens-là. On nous parle, par exemple, dans cet article, des 4 étapes qui partent de justement l'identité trans jusqu'à l'opération pour ceux qui veulent procéder à une chirurgie et opter pour un changement d'organes génitaux. Vous pourrez lire ça sur la plateforme du Journal de Montréal. Triste nouvelle pour ma part. Une autre triste nouvelle, le Parti conservateur ouvre la porte au mariage gay. Alors que le Parti conservateur s'était tenu debout lorsqu'il était dans l'opposition pour contester le mariage gay, lorsque Stephen Harper est devenu premier ministre du Canada à la tête d'un gouvernement minoritaire, il a tenté de faire obstruction au mariage gay, tenter de ramener la définition du mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme, puisqu'il était minoritaire, eh bien, ça l'a échoué. Mais maintenant, plutôt que de relancer le débat, la majorité des délégués qui étaient réunis à Vancouver ont décidé d'adopter cette nouvelle définition du mariage, qui est l'union entre 2 personnes. C'est pour ça, moi, je suis très attristé de cela et je songe personnellement à appuyer le Parti de l'héritage chrétien plutôt que le Parti conservateur. La notion du mariage est bafouée, mesdames et messieurs, alors que le Nouveau Testament nous dit que le mariage doit être honoré de tous. Et dans le contexte, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Mais ce qui arrive, c'est qu'au Québec, et on en a parlé la semaine dernière, puisque on s'en va dans cette direction, mesdames et messieurs. Quelle direction? On s'en va dans la direction où est-ce qu'on va bientôt offrir aux conjoints de fait les mêmes droits qu'on donne aux couples mariés. Et c'est pour ça que je suis très content que Denise Bombardier s'est levée et s'est exprimée à cet effet. Le mariage n'est plus une institution phare dans notre société atomisée. C'est ce qu'elle a écrit dans le Journal de Montréal. Or, le mariage demeure une reconnaissance sociale d'un choix privé. C'est un contrat qui ne peut être banalisé au même titre que des contrats d'assurance ou d'emploi. Nous ne sommes pas que des individus, mais également des êtres sociaux. L'État confère donc au mariage des droits particuliers, y compris des protections financières. Or, une majorité de Québécois souhaitent désormais que les conjoints de fait, en cas de séparation, accèdent de facto à ces avantages. Et c'est là le problème. Mais savez-vous qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit exactement ce que j'ai déclaré sur les ondes du 92.7 la semaine dernière. Voici ce qu'elle dit sur la plateforme du Journal de Montréal. Or, n'assistons-nous pas à une lente disparition de cette institution par laquelle l'État confirme son désir de protéger le couple, les enfants et le patrimoine familial? Chacun est libre de se marier ou pas, mais l'État doit offrir des avantages à ceux qui assument légalement cette responsabilité. C'est tellement vrai, mesdames et messieurs. C'est important qu'on puisse communiquer à nos députés qu'on veut protéger le mariage. Si des gens veulent des protections, ils doivent s'engager l'un envers l'autre. Le mariage, c'est la protection du couple. et non l'union de fait. C'est important qu'on puisse le dire, le communiquer. Sinon, le mariage n'aura plus de valeur à l'échelle sociale et l'éclatement de la famille qui a débuté depuis une cinquantaine d'années, eh bien, va se fragiliser davantage. On est dans une société fragile, mesdames et messieurs, et je suis content qu'il y en a qui se lèvent et qui parlent et qui s'expriment et qui ne gardent pas le silence. Ils ne regardent pas le train passer. Et un de ceux-là, c'est le cardinal Lacroix, qui craint une banalisation de l'aide médicale à mourir. C'est ce qu'on apprend dans le Journal de Montréal. Voici ce qu'on nous dit. Avec le temps, les mœurs sont affectées et la rareté du geste cède le pas à l'habitude. Je répète, avec le temps, les mœurs sont affectées et la rareté du geste cède le pas à l'habitude. C'est toujours comme ça quand on passe une loi. C'est toujours pour des exceptions, pour des cas extrêmes, mais à un moment donné, on s'habitue, puis on pense rapidement à l'autre étape. Et ça, c'est extrêmement dommage. Et justement, pour lui, il est important qu'on puisse protéger les gens qui souffrent en fin de vie. Voici ce qu'il dit. Ce que vous avez été, ce que vous êtes maintenant requiert, entre autres le respect, l'accompagnement et des soins appropriés pour vous aider à grandir jusqu'à la fin, insiste le cardinal, qualifiant les personnes affectées d'êtres revêtues d'une grande dignité. Pour ceux et celles qui s'opposent à l'euthanasie, leur objection de conscience doit être protégée, note l'archevêque. Ce dernier propose d'ailleurs que la décision d'un médecin de ne pas référer un patient à l'aide à mourir doivent être respectés, sans remise en question. Et ça, c'est clair, mesdames et messieurs. C'est important qu'on protège la liberté de conscience. Merci à cet archevêque qui se lève debout, qui parle, qui se prononce. Et en terminant, en rafale, comme c'est notre habitude, les bonnes nouvelles du jour. Enfin, l'inscription automatique au supplément de revenus garanti. Et oui, ça va avoir lieu en 2018 pour les personnes âgées qui ont des revenus modestes. Ils vont pouvoir être inscrits automatiquement au supplément de revenus. Jusqu'en 2018, il faut en faire la demande. Ensuite, mesdames et messieurs, FCT, chef de file en assurance titre, est très heureuse d'annoncer qu'elle ouvre la période de mise en candidature en vue de la remise de 5 bourses d'études d'une valeur de 1 000 chacune à des étudiants canadiens de niveau post-secondaire. Le rôle de l'entreprise tient à jouer afin de promouvoir des valeurs d'entraide et d'excellence au sein de la société canadienne et québécoise, explique M. Michael Leblanc, président du conseil de la Fondation de bienfaisance de FCT et chef de la direction de l'entreprise. Alors, vous allez dire 1 000 $, c'est pas beaucoup, mais ça aide. Ça aide, mesdames et messieurs. Alors, ils font un pas en avant, ils commencent à investir de l'argent pour la relève. Eh bien, félicitations. Et en tout dernier lieu, on a annoncé la sortie du premier guide complet pour tout savoir sur les véhicules électriques. Effectivement, les éditions de L'Homme ont convié les représentants des médias à assister à un déjeuner de presse pour souligner la parution du livre « L'auto électrique, hybride ou éco-énergétique » de Jacques Duval et Daniel Breton. Premier livre complet sur les véhicules électriques. Je tiens à préciser, mesdames et messieurs, que ces trois bonnes nouvelles du jour se retrouvent sur la plateforme newswire.ca. Sur ce, chers auditeurs, puisque c'est déjà le temps de clore cette émission, eh bien, je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur, à commercial, ericlantier.net. Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!